écoutez La Vagabonde, un podcast littéraire. Je suis Léa Schiavo.
Et je suis Marine Stizzi. Bienvenue dans le 5e épisode.
La vérité se cache-t-elle dans les bouquins? Peut-on découvrir le monde au travers des livres?
Pour ce 5e épisode de La Vagabonde, nous allons parler musique.
Comment être une artiste sans se faire l'écho de son époque? Déclarait Nina Simone à propos de sa carrière. Aujourd'hui, dans cet épisode, il va être question de musique et de résistance. Nous allons parler de blues, de jazz et de femmes. De femmes qui se sont démarquées par leur talent, leur force, leur caractère et qui ont dédié leur vie à la musique.
Alors, elles s'appellent Bessie Smith, Gertrude Marenet, Billie Holiday, Nina Simone ou Josephine Baker. Tout à leur manière ont influencé des générations de femmes après elles, artistes ou non, intellectuelles ou non. Elles se sont influencées les unes les autres aussi et parfois leurs chemins se sont croisés. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'elles ont toutes apporté quelque chose à l'histoire de la musique, à l'histoire des femmes noires, et même plus généralement, à l'histoire des États-Unis.
Ce sont des femmes qui ont associé leur talent et leur don à des causes plus grandes encore que l'art, rendant visibles des moments charnières de l'histoire même. Leurs chansons deviennent des hymnes et leurs voix des porte-paroles. Ici, plus que de partir du principe que l'art est forcément politique, vous avez 3 heures, il s'agit de considérer a posteriori les effets de ces créations sur des réalités sociales et historiques. La musique et son pouvoir de résistance, un sujet vaste et bien connu que nous avons décidé d'aborder avec ses autrices et auteurs, puisqu'il y a un homme, deux talents. Donc Toni Morrison, Angela Davis, Katel et Bokeh et Mathilde Hirsch chez Florence Noiville. Et donc Marine, qu'avons-nous dans la Vagabook aujourd'hui?
J'adore cette question. Alors, le premier livre dont nous allons parler est Jazz, roman de l'autrice américaine Toni Morrison, et le premier qu'elle ait publié après avoir reçu le prix Nobel de littérature. Jazz est publié en 1993 et c'est un livre qui, comme les autres livres de la trilogie dont il fait partie, parle de l'histoire des Afro-Américains et d'amour. Nous sommes à Harlem en 1920 et un homme, Joe, qui est marié à Violette, vient d'assassiner sa jeune maîtresse, Dorcas. Pourquoi? Comment? Quelle est l'histoire de Joe? D'où vient-il?
Et ensuite, nous allons parler de l'essai d'Angela Davis qui s'appelle « Blues et féminisme noir » qui est paru aux éditions Libertalia. Et qui décrypte en fait les chansons de 3 papesses du blues féminin, les blues women, Gertrude Marenet, Bessie Smith et Billie Holiday. Le livre met en lumière le rôle profondément contestataire et résistant de cette forme musicale qu'est le blues et des figures qu'il incarne. Toutes 3, par leur texte et leur mode de vie, ont préfiguré d'une certaine manière les combats féministes à venir.
Et enfin, parce qu'il est difficile de concevoir ce thème sans parler de 2 icônes inévitables qui ont puisé dans l'héritage des 3 artistes dont Angela Davis parle, nous allons parler de Nina Simone et de Josephine Baker. Nina Simone est une très grande musicienne, pianiste, chanteuse et militante des droits civiques. Nous allons parler d'elle aujourd'hui en nous appuyant sur la biographie écrite par Mathilde Hirsch et Florence Noiville et publiée récemment aux éditions Le Talendier. Une biographie qui s'appelle Nina Simone, Love Me or Leave Me, un titre qui reprend une des chansons phares de la chanteuse.
Et enfin, une vie impossible à résumer en quelques minutes, mais on va essayer d'en faire une synthèse, celle de Josephine Baker, qui est relatée dans le roman graphique éponyme de Katel et Bokeh, qui sont connus par ailleurs pour leurs nombreux albums biographiques, notamment sur Olympe de Gouges ou Kiki de Montparnasse. Josephine Baker est parue chez Casterman en 2016.
Alors, l'autrice Toni Morrison est une figure emblématique de l'écriture africaine-américaine. En 1988, elle obtient le prix Pulitzer pour son roman Beloved, après la mobilisation de nombreux intellectuels, dont Angela Davis et Maya Angelou en sa faveur. Puis elle obtient en 1992 le prix Nobel de littérature. Elle devient la 8e femme à obtenir la prestigieuse récompense et reste à ce jour l'unique femme noire à l'avoir jamais reçue. Elle est décédée cette année. En laissant derrière elle une œuvre immense, on la connaît aujourd'hui comme la voix littéraire des communautés afro-américaines et noires, mais pas seulement. Obama la décrivait comme un joyau national, exprimant ainsi la reconnaissance d'un pays à ses écrivains qui ont mis sur le devant de la scène les réalités de la communauté africaine-américaine. Jazz est le 2e tome d'une trilogie initiée avec Beloved. C'est une trilogie qui se conclut par le livre Paradis. L'autrice a dit elle-même à propos de cette trilogie que les 3 livres sont destinés à être lus les uns après les autres, car en fait, toutes les histoires peuvent discuter entre elles et se répondre. Dans ce livre, comme dans les 2 autres, il est question de l'histoire des Afro-Américains et d'amour. Que Jazz, donc, est construit autour des histoires d'un triangle amoureux qui se croise et s'entrechoque. Mais ce qui ressort quand on referme le livre, c'est l'amour qui lie, en fait, en dépit de tout. Toni Morrison se penche beaucoup sur la tendresse des années qui ont fait disparaître la fougue de la jeunesse en faveur d'autre chose, d'une forme plus sereine malgré la violence de la vie et, Et c'est très beau, très tendre.
Ouais, tout à fait. Et c'est vrai qu'avec du coup les histoires de donc de Violette et de Joe qui sont le couple et de Dorcas la maîtresse de Joe, en fait, on se rend compte que Toni Morrison se fait aussi l'écho à travers ses histoires personnelles de la communauté noire américaine. Puisqu'en fait, chaque itinéraire des personnages est une trajectoire... on imagine une trajectoire réelle possible d'une femme ou d'un homme afro-américain à cette époque. Les années 20. Donc c'est ce qu'elle nous raconte. Et elle remonte même un peu plus tôt. Elle remonte même à la période de l'esclavage en faisant un peu le fil des ancêtres aussi des personnages. Et donc, l'évocation de la musique, puisque c'est pour cette raison qu'on a choisi ce livre, elle se tient tout d'abord, et donc de manière évidente, on l'a tous remarqué, dans le titre du livre, qui est donc un titre très simple, qui est un seul mot, comme c'est souvent le cas d'ailleurs chez Morrison, puisqu'on a Beloved, Paradis, Délivrance, Home, Love, etc. Et partant du principe, évidemment, qu'un seul mot peut dire beaucoup. Donc voilà, pour nous, Jazz, c'est le titre qui donne toutes les informations, c'est-à-dire l'époque, à savoir les années 20, donc l'émergence de cette forme musicale. Le lieu, ça se déroule à Harlem, en plein cœur de cette mouvance-là. Et aussi les gens qui sont rapportés à ce lieu, à cette époque et à cette forme musicale, que sont les Afro-Américains. Toujours le chat.
Toujours le chat, il est toujours là.
Et donc, en fait, le trio évolue dans cet arrière-plan, qui est le jazz, ses clubs et ses danses, quoi.
Et deux, trois mots sur Harlem, hein, du coup. Harlem, c'est un quartier pauvre au nord de l'île de Manhattan, où la communauté noire s'est massivement installée après la guerre de sécession et la fin de l'esclavage en 1865. Entre les deux grandes guerres mondiales, Harlem va vivre une époque aujourd'hui nommée la Harlem Renaissance, une époque faite d'un renouveau de la culture afro-américaine, d'une conscientisation de l'histoire, de combat, mais aussi un essor de la culture, de la littérature, de la musique, photographie, peinture. Et le jazz, notamment, prend un essor spectaculaire dans des lieux tels que le Cotton Club, le Small's Paradise ou l'Apollo Theater. En fait, c'est dans cet environnement que se tient le livre de Toni Morrison, une époque donc très forte pour la communauté afro-américaine.
Ouais, et pour ce qui est de l'histoire, on apprend très rapidement, d'emblée, et c'est assez déroutant que Joe, en fait, donc marié avec Violette, a tué donc une jeune fille qui s'appelle Dorcas, avec qui il entretenait donc une relation extra-conjugale, et on a aussi un vrai insert sur comment Violette, justement, a vécu ce drame et cette tragédie, et comment elle vit sa jalousie et sa colère par rapport à ça. Et en fait, Morrison, c'est ce qui fait aussi la musicalité du roman, c'est qu'elle donne la parole tour à tour aux différents personnages, un peu à la manière de solo qui forme finalement un tout, pour en arriver enfin à la nuit où Joe tuera Dorcas.
Mais justement, tu parles de musicalité, et donc... Hormis le titre, on se demandait où se trouvait vraiment la musique, en fait, dans ce livre, parce que c'est pas si évident.
Ouais, tout à fait.
C'est disséminé quand même un petit peu partout. Il y a une trompette sur le bord d'une fenêtre. Il y a une musique torride qui rend les foules folles d'excitation, qui ouvre une porte à tous les possibles. Il y a quelques détails, en fait, comme des illustrations sur ce que la musique peut vouloir dire de la communauté, mais aussi sur comment cette musique était perçue. Pour la première fois, on parle du coup de musique du diable, s'opposant à une bien-pensance religieuse très répandue en fait dans les générations les plus pieuses et les plus âgées. Elle écrit à son propos que c'était la musique sale et vile, chantée par les femmes et jouée par les hommes, et dansée par les deux, collée sans pudeur ou séparée comme des sauvages. L'écouter, c'est déjà enfreindre la loi.
Et il y a vraiment toute une réflexion sur cette musique qu'on dit justement du démon, cette musique dont on doit se tenir loin si on veut rester respectable. D'ailleurs, c'est Nina Simone qui, quand elle était gamine, avait l'interdiction de sa mère, qui était donc une femme très pieuse, de jouer du blues, justement. Donc elle le jouait en cachette. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouvera plus tard dans l'épisode, à propos notamment de l'essai d'Angela Davis. Pardon.
Ouais. Mais donc la musique, ainsi dans le fond, c'est pas du tout en fait, le cœur de la narration.
Non.
La musique se trouve dans la composition du roman, dans la manière d'intégrer des solos, t'en parlais tout à l'heure, des solos typiques au jazz ou des complaintes que l'on retrouve fréquemment dans le blues. On retrouve également dans son livre et dans sa manière de raconter des histoires de plusieurs points de vue différents, de confier la mémoire d'un fait à plusieurs voix. C'est une manière qui est propre au jazz, ça, de faire se répondre les instruments, reprenant les thèmes selon différentes perspectives. Elle passe de la narration au récit, du il au je, avec une facilité hyper désarmante.
Et le jazz aussi, pour moi, il est développé dans les thèmes qui sont retranscrits dans le roman, c'est-à-dire la ville, la jeunesse, quelque chose de très urbain, de très nouveau aussi, auquel se confrontent les personnages, et ce qui est déstabilisant aussi pour eux. Ça exacerbe leurs sentiments, en fait, on a l'impression, parce que justement, Joe, avec sa toute jeune maîtresse, veut vaincre sa vieillesse. Donc justement, il est confronté un peu à la jeunesse avec une espèce de fascination. Ouais. Sa maîtresse Dorcas, justement, elle fait son apprentissage de sa jeunesse, puisqu'elle a environ 17 ans, enfin c'est la fin de l'adolescence. Ouais. Elle fait l'apprentissage de sa jeunesse par la danse, la musique, on le sent, elle est en effervescence par rapport à ça. Et Violette, justement, qui elle, essaye de gérer sa colère face à justement cette jeunesse qui entre en rivalité avec elle, quoi.
Et au-delà de ça, il y a l'écriture de Morrison qui intègre de manière presque invisible et avec beaucoup de subtilité des éléments d'histoire. Je cite, en 1906, Violette et Joe avaient quitté Tyrell, une halte du comté, en montant dans la section réservée aux gens de couleur du South End Sky. C'est juste une phrase comme ça, une petite, des petits éléments de détail, mais en fait ça contextualise, ça nous donne des infos et des détails en fait sur le contexte historique d'un pays qui était gangréné par le racisme et la ségrégation. Et tout ça, c'est des références à l'histoire qui se font de plus en plus prenantes, notamment quand Joe prend la parole pour raconter son histoire, c'est cette renaissance. En quelque sorte, arrivé à chaque obstacle qu'il a pu rencontrer. On découvre une vie très dure, marquée par l'abandon, un travail harassant, la recherche de sa mère, la survie.
Ouais. Et y a d'autres éléments comme... alors l'action se déroule donc en 1926, mais on apprend justement que Violette et Joe ont migré en 1906 du sud au nord, puisqu'ils sont originaires de Virginie, où ils étaient employés dans les champs de coton. Et ils s'installent donc à la ville, donc à Harlem, à la recherche d'une vie meilleure, puisque, tu le disais tout à l'heure, Harlem était... à cette époque, un point de destination en fait pour les migrations des Afro-Américains. Et voilà, donc en fait, il fuit le chômage, les lois ségrégationnistes pour chercher de nouvelles perspectives au nord. Et c'est un itinéraire qui est très très souvent décrit dans la littérature et notamment dans les romans de James Baldwin. Il fallait que je le place puisque j'aime beaucoup James Baldwin. Et Violette aussi, d'ailleurs, tu parlais de Joe, mais Violette aussi est marquée durement par cette histoire avec un grand H. Et c'est ce que nous montre Toni Morrison, puisque on découvre qu'elle est très instable mentalement. Elle a presque un dédoublement de personnalité. Enfin, on n'arrive pas trop à mettre le doigt dessus, mais on devine aussi que parce qu'elle a eu une vie qui a démarré très durement, elle a fait face au dénuement, à la pauvreté la plus totale, une mère qui se suicide. On se dit qu'elle a trop été éprouvée par la vie et par la violence de la société envers les Afro-Américains de l'époque et que du coup, c'est quelque chose qu'elle n'arrive plus à gérer, quoi. Ouais. Et cette violence subie par les Africains-Américains durant des siècles et l'influence que ça peut avoir justement sur les relations sociales, amoureuses ou autres, c'est justement tout l'objet de l'essai « Blues et féminisme noir » d'Angela Davis.
Et avant de parler plus concrètement du prochain livre de notre sélection, donc « Blues et féministes noirs », je crois qu'il est important de rappeler quelques faits sur Angela Davis, qui est une autrice majeure et indéniablement liée à toutes les femmes dont nous parlons aujourd'hui. Alors Angela Davis est née en Alabama en 1944, dans une ville nommée Birmingham. Pour la petite info, c'est dans cette ville qu'en 1963, des membres du Ku Klux Klan feront exploser une bombe dans une église, tuant 4 enfants, et aussi l'attentat à l'origine de la chanson Mississippi Goddamn de Nina Simone. Ça vous donne un peu une idée de l'environnement dans lequel Angela Davis a grandi. C'est une région donc aussi gangrénée par le racisme. La ségrégation est toujours en vigueur dans cette région du sud des États-Unis quand elle vient au monde et quand elle grandit. Elle est marquée par tout ça, par les humiliations à répétition, par la violence à l'encontre des gens noirs. Et tout ça, ça développe chez elle un militantisme grandissant qui ne la quittera jamais et qui fera même d'elle une des figures majeures de la lutte pour les droits civiques.
Ouais, et figure majeure puisqu'en fait, elle a été membre des Black Panthers, donc elle a été très active et très militante. Ouais. Elle a d'ailleurs été emprisonnée pendant près de 2 ans parce qu'elle a été accusée de meurtre pour finalement être acquittée suite à une grande mobilisation internationale en 1972. Ouais. D'ailleurs, on vous invite au passage à regarder le documentaire qui s'appelle Free Angela Davis and All Political Prisoners, parce que j'ai un accent génial, sorti en 2013 et qui donc retrace cet épisode, qui retrace cet épisode de sa vie.
Puis qui donne beaucoup d'infos sur les Black Panthers. Génial, ce documentaire est super.
Et donc aujourd'hui, elle est professeure en philosophie, elle est toujours militante, elle écrit, sa carrière l'a même menée jusqu'à la direction du département d'études féministes de l'Université de Californie.
Rien que ça.
Et donc elle écrit donc, entre autres des livres très importants, dont Women, Race and Class, donc femmes, race et classe, qui pourrait donc être considérée comme la Bible de l'intersectionnalité. Et concernant Blues et féminisme noir, c'est un livre qu'elle a écrit en 1999, mais qui est sorti en France seulement en 2017, parce qu'on a beaucoup de trains de retard quand même sur la traduction des écrits féministes venant des États-Unis et d'ailleurs. Et donc ce livre retrace l'histoire de trois grandes blues women des années 20 et 30, donc Gertrude Ma Rainey, Bessie Smith et Billie Holiday, et investigue sur leurs textes, les textes de leurs chansons.
Ouais. Et alors du coup, peut-être on peut préciser la richesse de ce livre. On aurait pu presque enregistrer un double épisode rien que sur ce bouquin. Ouais. Vous savez, quand vous voulez noter un peu les citations d'un livre, mais qu'en réalité, il y a genre 50 pages pleines de citations. Angela Davis a une manière d'amener les choses, de déconstruire des pensées et de les reconstruire derrière en s'appuyant sur un historique hyper solide, sur un corpus hyper fourni.
Plus et tout de ça, 200 chansons. Quoi.
Ah mais ouais. Et puis c'est fait avec beaucoup de finesse et beaucoup d'intelligence. Franchement, c'est stupéfiant. Et pour le coup, écoutez ce qu'ont eu à dire ces femmes que l'histoire de la musique a un peu oubliées. C'est écouter une histoire de femmes et une histoire aussi du féminisme, même si c'est pas correct en termes d'histoire d'employer ce mot par rapport aux années 20 et 30. Mais c'est quand même une histoire des prémices. On a un peu tendance à ne considérer que l'écrit comme base valable pour étudier une histoire, mais on a aussi tendance à oublier que beaucoup de femmes n'avaient pas forcément accès à l'écriture. Et de ce fait, on néglige l'importance de la tradition orale. Et par ce livre, Angela Davis décortique tout ce qui se cache dans les paroles des chansons des trois blueswomen, et on en apprend beaucoup.
Oui, et déjà, on apprend un peu l'histoire du blues, parce qu'on sait ce que c'est, mais bon, on ne sait pas forcément parfois d'où ça vient. Et de par son origine, il révèle une perspective idéologique spécifiquement africaine-américaine, il faut commencer par ça.
Ouais.
D'ailleurs, il faut noter qu'Angela Davis utilise le terme africain-américain plutôt qu'afro-américain.
Absolument.
Pour justement souligner les racines africaines des personnes qu'elle dénomme ainsi. De toute façon, c'est un terme qui à chaque fois porte à précision tous les cas. Donc c'est une forme qui est née dans les décennies suivant l'abolition de l'esclavage, donc fin 19e, et c'est une expression en fait de la nouvelle liberté des Africains-Américains, de leur nouvelle réalité sociale et sexuelle, c'est-à-dire post-abolition de l'esclavage. Cette musique représentait pour tous ceux qui l'écoutaient, mais aussi tous ceux et celles qui la faisaient, une forme de nouvelle indépendance intellectuelle et de liberté de représentation.
Mmh.
Donc c'est une musique qui exprime des réalités très quotidiennes, surtout de la souffrance sociale et psychique vécue par la communauté noire de la classe laborieuse. Et au-delà de ça, elle permettait aussi d'aborder des thèmes beaucoup plus larges que la musique dite traditionnelle. On pense par exemple à la musique sacrée et religieuse, mais aussi la musique de la culture dominante qui est la country.
Ouais, ouais.
Donc par exemple en abordant des thèmes très sulfureux comme l'homosexualité, les relations plusieurs, etc.
Un truc impensable
tout à fait.
Les autres genres.
Clairement. Et donc ce qui est le plus marquant, c'est que ce genre musical en fait s'est popularisé grâce à ces blues women et qui ont mis en fait sur le devant de la scène littéralement, ce genre de musique populaire, et donc ont contribué à la construction d'une nouvelle conscience noire et d'une esthétique noire, et l'avènement de l'industrie du divertissement noir. Rien que ça.
Ouais. Donc du coup, là, on peut revenir maintenant sur ce dont on parlait dans Jazz, cette notion de musique du diable, qu'Angela Davis décrypte entièrement, par opposition donc à la musique de Dieu, celle jouée dans les églises, les gospels, les spirituals et tout. Cette musique du diable était celle jouée dans les tavernes, dans les bars. Si beaucoup de gens finissaient par se tourner en fait vers le blues, c'est parce qu'en fait les espérances formulées dans les spirituals, et ce même après la fin de l'esclavage, parce que pour le coup les spirituals est quelque chose qui existait déjà pendant l'esclavage, ce qui n'est pas le cas du blues, ces espérances là en fait semblaient complètement inatteignables. Et le blues apportait une autre forme d'espoir. Les discours étaient plus accessibles, plus immédiats, et se concentraient sur les nouvelles réalités de leurs conditions.
C'est plus concret.
Ouais, c'est ça. Parce que pour le coup, cette condition, celle d'anciens esclaves, n'avait pas amené plus de facilité sociale ou économique telle que beaucoup l'avaient espéré avec la fin de l'esclavage. Mais n'empêche qu'il y a eu des changements radicaux et capitaux. Il y en a eu trois. Enfin, en tout cas, Angela Davis en décrit trois. Il y a eu la liberté de faire des études, de s'éduquer, hommes comme femmes. Il y avait la liberté de se déplacer, de voyager comme il le voulait, et surtout la liberté sexuelle. Dans le blues, c'est cet aspect qui est en partie le plus important, parce que pour la première fois, des hommes et des femmes noirs en Amérique avaient le droit de choisir leur partenaire sexuel. Ils décidaient de leur désir en tant qu'individus libres, et enfin, ils avaient obtenu une souveraineté sexuelle quand ils avaient été soumis à des relations non consenties pendant des générations, et ça fait quand même une sacrée différence. Et du coup, en fait, le voyage et le sexe devinrent les deux sujets majeurs du blues masculin comme féminin.
Ouais, et des thèmes, du coup, très exploités dans les chansons de Bessie Smith et Gertrude Marenné. On est début 20e siècle, hein, pour rappel.
Ouais.
Et donc, quand elle parle d'amour, elle n'en parle... Donc, pour parler justement de sexe et d'amour et de relations, elle en parle... Pas vraiment, ni de manière romantique, ni de manière très conventionnelle. Déjà, elle ne parle pas d'enfants, elle ne parle pas de mariage.
Non,
le blues
ne
leur sert
pas
à ça. Et en fait, ce constat-là, ça s'explique aussi en partie parce que ce ne sont pas des concepts qui collaient à la réalité de leur vie, donc hérités de la période de l'esclavage, justement, où ils n'avaient pas la liberté de former un couple comme ils l'entendaient.
Ouais.
C'était... voilà. Et on remarque que quand elle parle de mariage, c'est souvent avec ironie, parce que c'est un mode de vie, dit Angela Davis, c'est un mode de vie qui est assimilé à la culture dominante blanche.
Ouais. Une ironie d'ailleurs qui leur avait souvent été... Enfin, on leur accordait
contestée.
Pas cette...
Contestée, ouais. On les prenait très au sens littéral.
Ouais, les
alors
critiques
réalité,
blancs de l'époque n'arrivaient pas à comprendre cette ironie,
oui,
et leur ont beaucoup reproché le... Dans ce sens littéral, sans essayer de lire entre les lignes.
Alors qu'il y avait une double lecture, effectivement.
Ouais, ouais.
Et dans énormément de leurs textes, il est surtout question en fait, de l'absurdité de la vie conjugale, de l'ingratitude des hommes, de l'ennui de la vie domestique, voire de la violence de la vie domestique, puisqu'elle développe aussi beaucoup de textes sur les violences conjugales. Donc ce sont des textes qui sont souvent très crus, très honnêtes, qui sont sans détour et qui donc, voilà, utilisent ce fameux procédé de double lecture propre à cette culture-là. Et donc c'est totalement, ça rentre totalement en clash avec ce qu'on disait, les autres formes musicales de l'époque.
Bien sûr.
Et pour parler justement des violences et de la manière dont elles en parlent, de façon si crue, si réaliste, et même de l'intégrer en fait dans leurs chansons et de les intégrer sur scène. En faisant ça, elle brise un tabou qu'il y avait à l'époque sur les violences, puisque les violences domestiques relevaient de la sphère privée. Il y avait une espèce de pudeur très déplacée sur ce sujet-là, puisque on n'en parlait pas dans le discours public. Ce qui se passe à la maison, ça se passait à la maison. Mais il y avait rien qui était fait dans la société ou même au niveau politique sur ces questions-là. Et elles, en fait, elles ont porté ce sujet à dénonciation. Et en faisant ça, elles ont carrément anticipé en fait des mouvements, les revendications des mouvements féministes des années 70 qui ont commencé à dire non mais attendez, il faut en parler, il faut le mettre dans le discours public, il faut qu'il y ait des mesures politiques qui régulent ce genre de phénomène-là. Et elles sont totalement en avance en fait, en brisant ce tabou-là.
Ouais.
Angela Davis dit que c'est une manière de transformer un problème individuel en condition sociale.
Mmh. En fait, avec leurs chansons, elles ont en fait entre les mains les prémices, c'est Angela Davis aussi qui le dit, les prémices d'une attitude oppositionnelle à l'idéologie patriarcale. Mmh. Et elles exploitent aussi donc à fond leur sexualité, sans tabou et sans retenue. Une traduction qui est « pas le temps de se marier, pas le temps de s'installer, je suis une jeune femme et je n'ai pas fini d'aller voir à droite, à gauche ». Et Angela Davis décrit les blues women comme iconoclastes, et c'est vrai, autant dans leur thème que dans leur mode de vie. C'était des femmes qui ne correspondaient pas à l'image traditionnelle de la femme de l'époque. Dans leurs chansons, elles ont parfois des paroles hyper violentes, où en fait, elles ont juste une absence totale de résignation, une attitude pour le coup aussi déroutante pour le temps. Et ça en faisait des femmes très fortes. Des modèles hors normes dont le public féminin avait vraiment besoin.
Bessie Smith a tenu tête à tout un groupe du KKK, justement, qui voulait empêcher un de ses concerts.
Genre non, il n'y a pas moyen, vous sortez.
Cette anecdote-là, c'est drôle. Et justement, cette transgression des normes, ça explique aussi bien leur succès auprès des femmes que des hommes. Et c'est une transgression qui continue même, par exemple, avec Gertrude Marenné, qui était ouvertement homosexuelle et qui chantait aussi à ce sujet. Et qui... chanter par exemple en évoquant une wild woman, c'est-à-dire celle qui assume tous ses désirs.
Ouais. Il y a une petite phrase du coup d'Angela Davis qui, où elle dit que Marianne Eve a la réputation d'égaler n'importe quel homme en termes de voracité sexuelle et que Betty Smith, quant à elle, était connue pour dominer n'importe quel concurrent dans un duel de poissons.
Voilà. Et au-delà de ça, il y a un des thèmes principaux du blues, c'est aussi le voyage, donc parce que la liberté de mobilité a eu un fort pouvoir symbolique et un fort impact notamment psychologique après toutes ces années d'oppression, puisque le besoin de bouger est important dans l'émancipation, c'est vraiment prendre la mesure de cette nouvelle liberté, entre guillemets. Par exemple, c'était aussi un peu contraint parce qu'à l'époque, l'homme devait bouger parce qu'il devait trouver du travail. Il y avait beaucoup de difficultés pour trouver du travail, notamment. Ou alors, il était poussé par l'envie de profiter pleinement, justement, de cette liberté nouvelle, mais toute relative, hein, bien sûr. En revanche, cette prérogative était seulement valable pour les hommes. L'option n'était pas admise pour les femmes, évidemment.
Mais oui, d'ailleurs, pour le coup, il y avait beaucoup de femmes qui étaient quand même femme au foyer, même après la fin de l'esclavage. Elle restait à la maison, elle s'occupait des enfants, notamment que leur mari revienne. Parce que typiquement, voilà, comme tu disais, le mari parti sur les routes, guitare sur le dos, qui grimpe dans n'importe quel train à la recherche d'un boulot et qui, au gré du hasard, rencontrait aussi une femme, c'était pas impossible. Ces femmes-là étaient donc libres dans l'idée, mais pas réellement dans les faits. Parce que aussi, elles étaient souvent servantes dans des familles blanches pour subvenir aux besoins financiers. Mais les chansons des Blues Women étaient en fait un moyen de leur faire vivre cette expérience du voyage par procuration, autant qu'une manière de leur montrer tout simplement que c'était possible. Que certaines femmes, comme Marianne par exemple, mettaient en pratique sa liberté de voyager comme le faisaient les hommes. Montrer que certaines femmes pouvaient totalement s'approprier des codes masculins et se forger une identité. Après, il y avait aussi le fait que les Blues Women étaient un peu les seules à pouvoir s'approprier ce mode de vie. Elles étaient ce qu'on appelle des Rolling Stones. Elles chantaient aussi l'opportunité d'égaler les hommes. Elles chantent la quête d'une vie plus épanouissante et de l'amant disparu, un peu comme les hommes le faisaient avant elles, quoi. Et il y a, en question de mobilité, il y a toute une réflexion sur beaucoup de chansons qui parlent des migrations sud-nord. La chanson exalte le retour chez soi, donc du coup de revenir vers le sud. C'est parce que malgré en fait la ségrégation et malgré la violence qui continuait d'être exercée dans le sud. C'est le sud, en fait, c'était chez elle.
C'est le foyer, quoi.
C'était la maison, voilà. Elle l'avait souvent quitté pour trouver du travail dans le nord, pour le coup, le nord du pays, suivre un homme aussi. Mais il y a un vrai traumatisme de l'exode dans ces chansons. Ouais. Une importance de retrouver la terre natale.
Tout à fait. Et au-delà de ce thème-là, justement, on se rend compte que cette musique avait un rôle central de résistance. En fait, un peu comme la musique pouvait l'avoir à la période de l'esclavage, on parlait des spirituals, etc. C'est que les populations se retrouvaient là-dedans aussi pour y trouver une forme de résistance. Et justement, dans le blues, il y a ce procédé de dénoncer des faits de manière très honnête, de briser des tabous et de parler de réalités très dures, qui font que c'est vraiment un outil de résistance à l'oppression. On pense à certaines chansons, notamment de Bessie Smith, qui évoquent beaucoup la pauvreté de l'homme et de la femme noire, dans Poor Man's Blues ou Washwoman Blues, qui justement parlent de cette condition des femmes obligées donc de vouer leur vie à une domesticité au service des Blancs. Ouais. Et en faisant ça, en fait, elles livrent une analyse sociale des inégalités, tout simplement. Enfin, tout simplement, pas vraiment tout simplement.
Oui, oui,
surtout, elle dénonce en fait ce fait d'être condamnée, voilà, à exercer des travaux domestiques, à avoir très peu de perspectives de vie, finalement, ce qui entre en totale opposition à cette liberté soi-disant acquise.
Oui, oui, bien sûr.
Et d'ailleurs, ces textes-là, qui sont donc un peu plus forts que les autres qui font appel à cette...
Parlant.
Politiquement parlant, exactement. Oui. ont d'ailleurs pu mener à la censure de la part de l'industrie du disque.
Bah, en même temps, est-ce que vous imaginez un homme blanc, directeur d'une entreprise, car toutes les maisons de disques étaient dirigées par des hommes blancs, vous les voyez, ces mecs, accepter d'enregistrer des textes revendicatifs et politiques sur une condition qui, de fait, en fait, les concernait directement.
Et oui, puisque c'était eux les oppresseurs.
Bah oui.
Donc voilà, donc elles ont subi la censure. Et comme l'exemple le plus retentissant, je crois, c'est Strange Fruit de Billie Holiday. Angela Davis, hein, y consacre une grande partie du livre, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette chanson, et notamment cette pression des maisons de disques pour éviter ce genre de publication contestataire. On retrouve d'ailleurs le même phénomène dans la carrière de Nina Simone, quand elle se positionne en faveur du Black Power aux côtés des Black Panthers. Mm-hmm. Voilà, petit à petit, Nina Simone, elle a eu un vrai ralentissement dans sa carrière à cause de ça, puisque l'industrie était trop frileuse pour l'industrie du disque a délaissé ses chansons qu'elle jugeait trop contestataires. Et donc l'exemple de Strange Fruit, par exemple, c'est que Columbia, qui était donc un grand label à l'époque, a refusé d'enregistrer cette chanson par peur du propos. D'ailleurs, le propos, en deux mots, c'est une protest song qui a été chantée pour la première fois en 1939, donc par Billie Holiday, et qui évoque de manière détournée, métaphorique, mais tout à fait lisible finalement, les lynchages de Noirs dans le sud des États-Unis que l'on donc pendait aux arbres dans la rue. C'est ça, ces étranges fruits qui pendaient aux arbres aux yeux de tous. Ouais. Et donc finalement, en fait, c'est un label indépendant qui va l'enregistrer, c'est pas du tout Columbia. Alors qu'en fait même la chanson a eu un grand retentissement et la chanson a eu un grand succès, et encore aujourd'hui d'ailleurs c'est une des chansons les plus populaires en fait de la chanteuse.
Bah oui, parce qu'en fait à ce moment-là elle passe de musicienne reconnue à véritable porte-parole de la justice raciste. En fait, elle ouvre une porte que personne n'avait vraiment osé pousser avant elle. Il se passe quelque chose de bien plus fort qu'avec toutes les autres chansons que Billie Holiday avait l'habitude d'enregistrer. Il y avait beaucoup, beaucoup de chansons d'amour avant dans son répertoire, mais principalement.
Ouais, elle s'est positionnée d'un coup.
C'est tout de suite, en fait, Strange Fruit, c'est une chanson qui a été écrite avec beaucoup de rage, qui se voulait l'emblème d'une entrée en résistance. Une chanson qui obsède celle qui l'écrit et qui marquera véritablement un avant et un après dans sa carrière.
Ouais, tout à fait. Et indirectement, parce qu'en fait... elle n'était pas engagée politiquement, mais par cette chanson et sa volonté de la chanter et son attachement à ce texte-là, elle en vient à participer directement de l'évolution de la dimension politique, justement, de la culture noire américaine. Il faut dire aussi que ça entre directement en résonance avec la mort de son père, de Billie Holiday, qui était donc musicien de jazz, et qui, en tournée, a contracté donc une maladie pulmonaire et qui n'a pas pu recevoir les soins nécessaires parce qu'il était un homme noir au Texas, qui, à l'époque, était un État ségrégationniste, 3, 4, 5. Et donc, en fait, le temps d'arriver dans un État où il pouvait effectivement recevoir les soins nécessaires, il est décédé. Donc, elle disait que cette chanson lui tenait à cœur parce qu'il c'est totalement en écho avec son histoire personnelle, quoi.
Ah ouais. Mais de toute façon, on a l'outendit... Enfin, on a beaucoup de critiques blancs. Qui ont dit que quand le texte de cette chanson a été proposé à Billie Holiday, elle n'en a pas tout de suite saisi le sens. On a dit d'elle qu'elle avait accepté de la chanter parce qu'en fait, on lui avait un peu demandé de le faire.
On l'avait encouragé.
Donc si on lui demande, bah ok, je fais. En réalité, quand on lui laisse la parole, et c'est ce que fait Angela Davis, elle la cite directement. Elle dit bien que le texte l'a bouleversée dès qu'elle l'a lu et qu'elle elle tenait absolument à le chanter. Et en partie, tu le disais, parce que ça rendait hommage à la mémoire de son père. En fait, les critiques blancs se sont complètement... Enfin, c'est un peu gros de dire les critiques blancs, en tout cas, mais ces personnes-là se sont accaparées l'histoire derrière cette chanson, en la faisant passer pour plus inculte, clairement, que ce qu'elle n'était, en disant qu'elle ne comprenait pas la métaphore de la chanson. Enfin bref, infantilisation de base.
Voilà, exactement, ce procédé très paternalisant.
Complètement.
Et ça délégitime complètement le propos.
Bien sûr.
Et d'ailleurs, un propos qui ne devait pas forcément être délégitimé, parce que même si en 1939, les lynchages ont déjà été dénoncés publiquement, il y a eu des mouvements politiques qui faisaient en sorte
qu'avant.
Que... Voilà, mais ça n'a pas disparu pour autant. D'ailleurs, dans le livre, il y a une description qui est hyper violente, qui est très difficile à lire. On a aussi une idée très bouleversante dans le documentaire qui s'appelle « I am not your Negro » de Raoul Peck, qui est écrit d'après l'œuvre de James Baldwin, voilà, qui retrace aussi toutes les étapes du mouvement des droits civiques aux États-Unis en allant justement à la racine, c'est-à-dire la période de l'esclavage, la faim, les lois ségrégationnistes. Et là-dedans, on a aussi une idée très poignante de l'atmosphère qui pouvait régner dans ces États à l'époque. Voilà, et puis... De toute façon, Billie Holiday savait de quoi elle parlait, puisqu'elle a subi directement aussi des attaques racistes, notamment lors de sa tournée dans le sud des États-Unis. Là, par exemple, on pense à Green Book, qui est le film de Peter Farrelly, qui parle de l'histoire de Don Shirley, un musicien...
Super film.
Ouais, super film, d'ailleurs, que j'adorais. Musicien donc, qui s'appelle Don Shirley, très talentueux, et qui tient à faire sa tournée dans le sud des États-Unis, malgré les risques que ça a imposés. Et le Green Book, en fait, est le guide... pour le voyage en sécurité des personnes de couleur de l'époque.
Les endroits où ils peuvent aller, les endroits où ils ne peuvent pas aller. Ouais.
On a ça aussi dans Alarm Quartet, où les personnages sont musiciens.
De James Baldwin.
toujours. où les personnages sont musiciens et doivent partir en tournée dans les États du sud des États-Unis. On sent vraiment la peur qu'ils ont d'aller dans ces États, notamment à Birmingham, qui est une ville réputée très violente à l'époque.
Mais ce n'est pas safe du tout.
Non. Et Angela Davis dit justement que... L'enregistrement de Strange Fruit par Billie Holiday reste un des exemples les plus influents et profonds, et toujours d'actualité, de la rencontre entre la conscience sociale et la musique. Et d'ailleurs, Billie Holiday et ses chanteuses ont marqué des générations de chanteuses après elle, évidemment, et dont une dont nous avions vraiment envie de parler aujourd'hui, puisqu'il s'agit de Nina Simone, qui est probablement d'ailleurs la plus connue et la plus populaire de toutes. Les musiques de Bessie Smith et particulièrement celles de Billie Holiday, justement, l'ont bercée dans son enfance et l'ont beaucoup inspirée. D'ailleurs, pour vous donner une idée chronologique, Nina Simone entre à l'école quand Billie Holiday chante Strange Fruit en 1939.
Et au printemps dernier, Christiane Taubira, sur TSF Jazz, parlait de Nina Simone à l'occasion d'une émission qui lui était entièrement consacrée, comme d'une artiste totale et d'une personne volcanique. L'ancienne garde des Sceaux est une grande amatrice de jazz et de blues. Elle connaît très très bien les œuvres de Bessie Smith, de Billie Holiday, d'Ella Fitzgerald aussi, dont on ne parle pas dans cet épisode, mais on aurait pu le faire. À propos de Nina Simone, elle confie avoir pour elle une affection particulière. Elle dit que Nina Simone a une place importante dans sa vie, et je crois d'ailleurs que c'est aussi ce qui se démarque, en fait, Nina Simone de bien d'autres artistes. C'est justement cette faculté-là d'entrer dans la vie des gens. Sa vie et sa carrière ont été marquées par son talent inouï de prime abord, ce don pour le piano absolument spectaculaire. Nina Simone est véritablement une pianiste de génie. Sa carrière, c'est énormément de chansons populaires, de chansons d'amour, autant que des portraits des États-Unis. Je pense bien sûr à des titres, on en parlait plus tôt, comme Mississippi Goddam ou I Wish, qui, moi, me concernant, est ma chanson préférée. Ouais. Mais sa carrière, c'est aussi un militantisme viscéral. Une réputation sulfureuse et cette rage qui ne la quittera jamais.
Oui, et c'est les journalistes Mathilde Hirsch et Florence Noiville qui, donc, dans le livre Love Me or Leave Me, ont retracé, ont écrit la biographie de Nina Simone et qui vient donc de paraître aux éditions Le Taillandier. Donc, c'est une biographie chronologique très factuelle qui, d'ailleurs, qui ne s'aventure pas en dehors des chemins battus, mais qui a le mérite de donner une image claire de la diva, et sans forcément d'ailleurs aussi, au passage, arrondir les angles sur sa personnalité extravagante et ses excès de colère. Ouais. Donc on y découvre une enfant d'abord sage, assez introvertie. Avant de devenir Nina Simone, elle est née Eunice Wayman en 1933. Elle prendra son nom de scène bien plus tard, évidemment. Elle grandit dans une famille de musiciens qui est donc marquée par la ségrégation du sud du pays, puisque son père vient de Caroline du Sud, là où justement les Strange Fruits sont une réalité. Très tôt et en autodidacte, elle apprend le piano. Mais bon, au début, ce qu'on attend d'elle, on y revient, c'est de jouer surtout des spirituals, la musique noire héritée de l'esclavage. Sa mère préfère qu'elle joue ça.
Sa mère est une femme très, très pieuse.
Très pieuse. Ouais, et donc, elle joue le dimanche à l'église, accompagne le prêtre et les fidèles dans leurs cérémonies. C'est d'ailleurs comme ça que bon nombre d'artistes noirs ont commencé, justement. Mais bon, quand sa mère n'est pas là, préfère jouer du blues avec son père sur le piano familial.
Mais n'empêche qu'elle a un talent indéniable. Et très rapidement, elle se fait remarquer par une certaine Madame Miller, qui décide de lui payer des cours de piano pendant un an. Franchement, on peut dire qu'elle a eu du nez. En termes de mécène d'artiste, je ne sais pas si on a déjà fait mieux.
Elle a bien misé.
Ouais. C'est clair. En tout cas, la petite Eunice découvre du coup Bach et Rachmaninoff Et alors, en fait, à ce moment-là, elle débute à nourrir un rêve, celui de devenir la première concertiste classique noire. Une fois cette première année passée, c'est la communauté qui décide d'économiser pour offrir à la petite fille ses cours de piano. Elle représente un réel espoir pour sa ville. Elle travaille très dur, très fort, et devenue plus âgée, elle s'en va à New York pour intégrer un stage de préparation au concours de la très prestigieuse Curtis School of Music. Et là, et bien, en fait, elle découvre la Harlem Renaissance et elle se frotte à la constante ébullition de la communauté afro-américaine. Concernant son concours, elle est refusée. Son frère dit que c'est à cause de sa couleur de peau, d'autres parce qu'elle n'avait juste simplement pas le niveau. N'empêche que cette défaite est la première grosse déception de sa vie, le premier échec.
Et puis on sent bien que c'est pas racisme, finalement.
Oui, il y a quand même un peu de ça. Et moi, du coup, j'avais envie de citer du coup James Baldwin, encore qu'on cite tout le temps. Mais dans une lettre adressée à son neveu, écrit à propos des ambitions des jeunes noirs, je cite « On n'attendait pas de toi que tu aspires à l'excellence, on attendait que tu sois en paix avec la médiocrité. »
Ouais, c'est violent du coup.
Et
pour elle, c'est une expérience fondatrice pardon, de sa condition noire, disons,
ouais,
où
ouais.
Elle exprime ça comme un regret infiniment triste, en fait, d'avoir échoué là-dedans, puisque c'était son plus grand rêve. Et d'ailleurs, même devenue une très grande star, c'est quelque chose qu'elle gardera en tête. Il y a une image poignante où elle en parle, justement, dans le documentaire What Happened to Miss Simone.
Ouais, ouais.
Elle dit que c'est son plus grand regret, quoi. Mais bon, elle décide de persévérer finalement. Enfin, de toute façon, elle ne se voit pas faire autre chose que ça.
Mmh.
Et pour se payer des cours, elle accepte de jouer dans un bar à Atlantic City, sur la côte entre New York et Washington. Donc.
Mmh.
Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'elle décide de son nom de scène. Elle devient Nina Simone. Et puis, à partir de là, tout va très vite, puisqu'elle se fait repérer. Un producteur lui propose d'enregistrer un disque parce qu'il ne veut pas laisser filer cette perle et il a eu du nez, encore une fois.
Ouais.
Pour son premier disque, sur lequel figure déjà un de ses plus grands succès, qui est I Love You Porgy, elle est payée 3 000 $ et puis signe un contrat à la noix qu'elle finira par bien regretter. Mais à ce moment-là, elle ne s'en rend pas vraiment compte. Elle s'est installée à New York, elle arrive à Greenwich Village, qui est donc devenu à la fin des années 50 le centre de la vie culturelle et militante new-yorkaise. Elle y croise d'ailleurs donc les personnes qui finiront par avoir beaucoup d'influence sur elle. Ornetta, Lorraine Hansberry, qui est donc une dramaturge et militante pour les droits civiques.
Mm-hmm.
Langston Hughes, qui était un poète. Et bien sûr, James Baldwin, écrivain. Et donc, à partir de là, le succès a été très rapide. Elle est vite connue et reconnue dans le monde entier et devient très riche à même pas 25 ans.
Ouais, ouais. Mais c'est à peu près à cette période aussi qu'elle développe considérablement son militantisme, renforce aussi son rapport à l'Afrique, cette terre mère qu'elle n'a visitée qu'une seule fois, mais qui préfigure ce qui arrivera ensuite. Elle finira par retourner au Libéria pour essayer de retrouver une forme d'authenticité. Mmh. Mais à ce moment-là, voilà, elle commence à porter des vêtements et des bijoux africains, se frotte à la sorcellerie et au vaudou. Ça l'amuse un peu, en fait, qu'on la voit comme une espèce de sorcière africaine. Et puis surtout, c'est la période des droits civiques. Et donc, avec James Baldwin, t'en parlais, elle rencontre Malcolm X, croise Martin Luther King, et qui, elle dit, c'est un peu marrant, quand la première fois qu'elle le rencontre, elle est hyper intimidée, elle est très stressée, et en fait, la première phrase qu'elle lui sort, c'est « Moi, je ne suis pas non-violente. »
Oui, elle a posé les bases.
C'est ça. Et elle rencontre Angela Davis, évidemment, beaucoup de membres des Black Panthers, et elle se nourrit beaucoup de ça. Et elle publie, à ce moment-là, certaines de ses chansons les plus fortes, ses protest songs qui feront date et qui feront surtout beaucoup, beaucoup parler quand elles seront diffusées. En fait, elle comprend assez rapidement que sa force à elle, dans la lutte, passe par la chanson, par la musique, et que les messages, c'est de cette manière qu'elle doit les faire passer. Elle devient, du coup, une voix de la contestation, de la résistance, une véritable voix des droits civiques.
Oui. Ça la suivra jusqu'à la fin de sa vie, mais d'ailleurs ça la bouffera en fait, finalement, parce qu'elle a une colère qu'elle n'arrive pas à gérer finalement, et on la comprend.
Une colère qui vient des débuts en fait.
Exactement, et c'est une personne très fragile, instable, même maniaco-dépressive. finalement, on voit que son mari n'arrange pas les choses, hein, puisqu'il la frappe beaucoup, il a énormément d'emprise sur elle.
Il l'infantilise.
Ouais. D'ailleurs, à contrario de Bessie Smith et Gertrude Marinet, elle ne parle pas des violences dans ses chansons. Ce n'est pas un thème qu'elle a exploité. Ouais. Mais bon, bref, la fin de sa vie, somme toute, c'est assez tragique, la fin de sa carrière. Mais on ne va pas se pencher dessus parce qu'en fait, au final, l'important à retenir la concernant, c'est surtout de ce que tu disais, la force de son art, la rage de son militantisme. Elle croyait très, très fort aux luttes pour les droits civiques et rêvait d'une Amérique où le racisme n'existait plus. Donc, elle reste encore, malgré sa mort, une des voix primordiales de ce combat et continuer de l'écouter est évidemment important.
Pour conclure notre épisode, il nous a semblé intéressant de nous pencher sur la figure de Josephine Baker, qui, elle aussi, en tant qu'artiste, a pris part à des mouvements de résistance. Pour ce faire, nous nous sommes intéressés à un roman graphique, paru en 2016 chez Casterman. Les dessins sont signés par l'illustratrice strasbourgeoise Katel Müller, d'après un scénario de José-Louis Boquet. Ah. Mon Dieu, c'est un homme.
Oh là là.
Ouais. je sais pas si je le vis bien.
si, ça va.
Mais en vrai, c'est bon, pour le coup, c'est pas la première fois que le duo travaille ensemble. Aux mêmes éditions, tu le disais plus tôt, ils ont également publié un roman graphique sur Olympe de Gouges et sur Kiki de Montparnasse.
Des grandes dames, donc.
Des grandes dames, absolument.
Et donc, quand on pense à Joséphine Baker, l'image qui colle le plus à l'imaginaire collectif, c'est bien entendu Joséphine à moitié nue, la taille cerclée de banane. Voilà. C'est une image assez racoleuse qui correspond au début de sa carrière, certes, mais qui invisibilise assez tout un pan militant et revendicatif de sa vie.
Ouais, et d'ailleurs, en lisant l'histoire de sa vie, on se rend compte qu'elle a été, et on s'en doutait, bien plus du coup qu'une histoire, qu'une danseuse de cabaret. C'est avant tout une grande artiste, bien sûr, mais elle s'est aussi, et j'ai presque envie de dire surtout, engagée à l'occasion de la Seconde Guerre mondiale en France et pour les droits civiques aux États-Unis. Alors, petit point chronologique, elle vient de... ouais, bio. Elle vient de Saint-Louis, dans le Missouri, et a grandi dans une grande pauvreté. Au Missouri, sévissent les fameuses Jim Crow Laws.
Lois ségrégées.
Ouais, voilà. Et on peut dire que ça a marqué sa pensée. Elle se consacre très tôt à la danse et au spectacle, néanmoins. Elle commence très jeune les tournées avec une compagnie qui la prend sous son aile. Et en fait, finalement, elle arrive très, très vite à New York, où on lui présente une opportunité qu'elle ne peut pas refuser. Être la star d'un spectacle parisien s'appelant La Revue Nègre.
Je n'ai rien à dire. On n'a pas envie.
Ouais, voilà. La voilà donc à Paris, une ville où elle s'apercevra que sa couleur de peau n'est pas un obstacle à sa liberté, comme c'est le cas aux États-Unis dans les années 20.
Oui, parce que d'ailleurs, c'est à cette époque que certains intellectuels africains-américains fuient les États-Unis pour conquérir la liberté. Le racisme à l'époque, en effet, il n'est pas institutionnalisé par la ségrégation. Parce que bon, de là à dire qu'il n'y a pas de racisme en France à cette époque, ça me paraît un petit peu osé, mais voilà. Encore James Baldwin, toujours.
Je pense qu'on pourrait appeler cet épisode hommage à James Baldwin.
James, I love you, a fait pareil, en fait. C'était un écrivain noir et homosexuel. Il s'est expatrié à Paris dans les mêmes années pour fuir un contexte très violent et pouvoir vivre pleinement de son art. Et c'est pour les mêmes raisons, en fait, que Joséphine Baker décide de rester en France. Donc déjà, des choix professionnels, mais totalement motivés par une conscience politique et un désir de liberté. Mm-hmm. Ce qui frappe à la lecture de la biographie par Katel et Boquet, c'est le contraste qui règne entre donc, l'insouciance de l'Europe et le climat très anxiogène des États-Unis, en tout cas aux yeux de Joséphine. Quand elle est en Europe, c'est les tournées, le succès, les rencontres, l'argent. Les planches sont joyeuses et foisonnantes. Il y a énormément d'infos, il y a plein de lumières, ça clignote partout. Bref, c'est le succès, c'est la folle vie d'artiste, quoi. Mm-hmm. Et en revanche, chaque fois qu'elle retourne aux États-Unis, ce qui ne se passe pas tant de fois dans sa vie, elle n'a pas été beaucoup aux États-Unis, finalement.
Non.
On sent le poids du racisme et tout ce que ça l'empêche de faire.
Oui, parce qu'en fait, elle s'est vraiment épanouie intellectuellement, socialement, politiquement parlant, en dehors des États-Unis. Elle est devenue quelqu'un, en fait, en Europe. L'Europe qui avait, du coup, comme on le disait plutôt, un rapport au noir complètement différent des États-Unis.
Oui, c'était pas institutionnalisé, quoi.
Oui,
il y avait
c'est
pas
ça,
de
pas du tout. Après, ce qui est très drôle, c'est que c'est aussi une époque très dure, notamment pour les personnes venant du Maghreb. Enfin bref, voilà, ça c'est aussi, on tomberait dans une...
Ouais, enfin, on est dans un contexte de colonial quand même, malgré tout.
C'est
donc
ça, c'est ça,
voilà, il n'y a pas de loi ségrégationniste, mais on est quand même dans l'Europe
c'est
qui colonise.
C'est pas facile non plus, quoi.
Voilà.
Ouais, voilà. Mais n'empêche qu'en France, elle était la grande Joséphine Baker. Aux États-Unis, carrément, en fait, quand elle y retourne, on refuse même de lui servir un café quand elle rentre dans un bar, parce qu'elle est noire. Et c'est aussi pour cette raison, parce qu'elle est consciente de la situation des Noirs aux États-Unis, mais, et même en fait, si elle, désormais, elle en est loin, parce qu'elle habite plus là, elle décide de s'engager en faveur du mouvement des droits civiques et d'utiliser sa notoriété pour donner vie à un discours essentiel à cette époque. Ouais. Mais n'empêche qu'avant ça, Joséphine Baker a utilisé aussi sa notoriété pour rentrer en résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Très patriote envers la France qui l'a accueillie, elle devient espionne pour le compte des Alliés et fait passer des messages sur ses partitions lors de ses tournées en Europe et en Afrique. Elle finit par recevoir les honneurs du général de Gaulle. Et dans cet esprit de résistance, elle a pris part au mouvement des droits civiques. Donc. Elle a notamment parlé aux côtés de Martin Luther King le jour de son fameux discours « I have a dream » au Lincoln Memorial en 1963. En s'associant de si près à cette lutte, elle reste fidèle à ses convictions de liberté et d'égalité qu'elle a essayé d'ailleurs d'appliquer dans sa vie personnelle en adoptant des enfants de toutes les nationalités et origines qu'elle appellera sa tribu arc-en-ciel. Oui. Elle en a 12.
Elle a fait ça, oui, 12. Et pour finir sur Joséphine Baker, ce qui est surtout intéressant de souligner, c'est que contrairement aux chanteuses dont on a parlé jusqu'à présent, elle s'est engagée, mais ne l'a pas fait directement via son art. Ouais. C'est-à-dire qu'elle n'a pas utilisé la chanson, ses textes pour exprimer ses revendications, mais elle a utilisé plutôt du coup sa notoriété pour le faire. Donc en fait, c'est effectivement grâce à sa musique qu'elle a pu s'engager, parce qu'en fait, c'est sa musique qui lui a donné le succès, un accès à des endroits du monde qui lui étaient par ailleurs refusés. Et c'est ça qui lui a donné la liberté. Elle a pu rencontrer des gens, elle a pu s'ouvrir des portes qui lui seraient restées fermées autrement. Et c'est grâce à ça qu'elle est partie des États-Unis. Donc c'est ça qui a vraiment marqué la possibilité pour elle de s'engager.
Joséphine Baker, Nina Simone, Bessie Smith, Gertrude Marinet ou Billie Holiday, toutes ont été des modèles pour la jeunesse et les générations futures. Toni Morrison disait que Nina Simone avait permis à sa génération de rester en vie. Toutes ont permis à leurs auditrices, à leurs spectatrices, de réaliser qu'il existait une autre manière d'être au monde, d'être à la société. Elles ont ouvert un champ des possibles inestimable.
Les Blues Women, en réalité, malgré toutes les résistances qu'elles ont pu rencontrer, de la censure de la part de l'industrie du disque au racisme, évidemment, ont contribué à l'émergence d'une esthétique noire. Et aujourd'hui encore, l'héritage de Billie Holiday est toujours présent dans la musique contemporaine, par exemple chez Tracy Chapman ou Erykah Badu. En vraie superstar, elles avaient en réalité autant de succès auprès des Noirs que des Blancs, auprès des hommes que des femmes. Mais auprès du public africain-américain, donc, elles arrivaient à exacerber ce sentiment de communauté, au sud comme au nord. Et leurs œuvres, en fait, parlent finalement à tout le monde. Et parce que ce sont des femmes, elles sont arrivées à mettre en place un phénomène d'identification très fort auprès du public féminin.
Et pour finir, parce que leurs revendications étaient intersectionnelles, leurs contestations concernant aussi bien la classe, la race, le genre... ces mouvements ont aussi préfiguré, et c'est évident, d'une émergence des contestations féministes, des luttes contre la société patriarcale et des violences qu'elles impliquent. D'une certaine manière, nous pouvons leur dire merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Vagabonde.
Merci.
Nous espérons que ce numéro vous aura donné envie de les écouter, ces femmes, de monter le volume de vos écouteurs quand vous entendrez les trois premières notes reconnaissables entre mille de Cinnamon de Nina Simone. Merci à Bastien Jackson pour la réalisation et le montage, et à Théophile Denis pour la musique. Vous pouvez toujours nous retrouver sur les réseaux à La Vagabonde Podcast. Salut.
Salut.